Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on se glisse dans la poche d'un journaliste et on vous fait découvrir les coulisses du métier. Et l'une des figures imposées, c'est l'interview politique. Pourquoi parler de l'interview politique aujourd'hui ? Parce qu'on est à 13 mois de la présidentielle et vous avez sûrement déjà lu, vu, entendu un homme, une femme politique, candidat à la fonction suprême. On est en plein dans la crise, mais la pré-campagne présidentielle est déjà lancée. Dans les starting votes, il y a Jean-Luc Mélenchon, chef de file La France Insoumise, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Et puis, il y a tous ceux et celles qui sont potentiels candidats à la candidature, qui taisent être candidats, mais qui font comprendre qu'ils pourraient éventuellement l'être.
Je vous ai compris !
L'interview politique, c'est un exercice à plusieurs. Il y a le, la candidate, les journalistes, comme mes collègues Laure Cometier et Thibault Legal à 20 minutes, ou encore moi-même, quand j'étais à la politique jusqu'en 2018, avant de voguer vers les podcasts. Alors comment mes collègues Laure et Thibault réalisent cet exercice ? Quel est le travail en amont ? Est-ce qu'ils sont potes avec les attachés de presse ou les politiques ? Quel est l'intérêt d'une relecture des propos par la personne interviewée ? Ce que ne font pas tous les médias ? Est-ce qu'il y a des pressions sur les journalistes ? Est-ce qu'il y a des tensions ? Allez, maintenant on fait les présentations.
Bonjour, je suis Thibault Le Gall, je suis journaliste politique à 20 minutes depuis 2015.
Bonjour, je suis Laure Cometier, journaliste aussi au service politique depuis 2016.
Laure, Thibault, comment vous choisissez les candidats, les candidates à interviewer ?
20 minutes, c'est censé être un média apartisan, donc on prend parti pour personne en particulier. Donc l'idéal, c'est de toujours interviewer toutes les têtes de liste pour avoir toutes les couleurs politiques sur le site et dans le journal de 20 minutes. Parfois, vu les effectifs, pour je ne sais plus quelle, aux européennes, il y avait quoi ? Il y avait 30 listes ? C'était vraiment injouable et donc c'est vrai que malheureusement, tu dois faire des choix et des choix qui sont assumés par la direction de la rédaction et en général, on dit qu'on interviewe les grosses têtes de liste.
Après, c'est le débat de savoir qu'est-ce qu'une grosse tête de liste et en général, on le fait malheureusement par rapport au sondage. C'est comme ça que ça se choisit. On va dire ceux, les candidats qui sont à plus de 4-5%, je crois, c'est ce qu'on avait choisi la dernière fois.
Ce qui est toujours délicat parce qu'en plus les sondages, ça varie selon les instituts qui les font, ça varie selon les semaines. Mais bon, à un moment, parfois, il faut choisir si tu dois faire 30 interviews avec X journalistes mobilisés sur Y période de temps, ben tu peux pas, donc faut faire des choix.
Donc vous avez déjà interviewé dans ces 4, 5, 6 années Asselineau, Hamon, Mélenchon, Macron.
Ce qu'on n'a pas fait.
Si, on a interviewé Emmanuel Macron candidat, mais on n'a pour le moment pas interviewé Emmanuel Macron président. D'ailleurs, s'il nous écoute, on est intéressé. Après, quand tu interviews un candidat ou donc quelqu'un qui a pour qui il y a un fort enjeu sur cette interview parce qu'il est en campagne, qu'il a des messages à diffuser ou qu'il veut riposter à des adversaires, c'est sûr que c'est des séquences où il peut se passer des choses intéressantes.
Récemment, vous avez fait Marine Le Pen. Avant d'accéder à Marine Le Pen, il y a une personne centrale.
C'est l'attaché presse.
Parfois, c'est les politiques qui contactent le média parce qu'ils veulent parler, donc ils veulent savoir si t'es intéressé par une interview.
Bon,
parfois,
par l'intermédiaire de l'attaché presse.
Parfois, c'est toi qui essayes de les contacter. Parfois, ça suffit pas de contacter l'attaché de presse et de demander une interview. Il faut aussi essayer de contacter d'autres personnes qui pèsent dans l'entourage politique de la personne que tu veux interviewer. C'est pas toujours le cas, mais oui, c'est sûr que parfois, c'est aussi une affaire de réseau. De les convaincre que t'es un journaliste sérieux, que tu vas faire une interview sérieuse et que ça t'intéresse vraiment, quoi, de montrer aussi ta motivation.
Il y a un dialogue en amont, oui, avec l'attaché presse pour savoir sur quoi on va l'interroger, combien de temps, où est-ce que ça va se faire, voir si le politique a des autres médias, par exemple. Est-ce qu'il peut nous annoncer des choses nouvelles ?
Est-ce que c'est une exclusivité ? On a eu le cas récemment d'une figure de l'opposition où on avait dit à une interview en dealant une relative exclusivité, c'est-à-dire qu'il devait nous annoncer des trucs à 20 minutes et en tout cas laisser un laps de 24 heures, on va dire, avant d'en parler dans d'autres médias. Et au final, ça n'avait pas été le cas. Les infos sont sorties à la radio avant même qu'on publie l'interview. Donc c'est...
Du coup, on a décidé avec la rédaction en chef de ne pas publier l'interview parce que les annonces étaient sorties le matin dans à la radio, et c'est vrai qu'il y avait moins d'intérêt pour les gens d'avoir une interview qui avait été faite la veille sur des annonces en fait qui étaient déjà sorties quelque part.
Est-ce que les journalistes sont potes avec le politique, la politique ou avec l'attaché de presse ?
Alors nous, on n'est pas potes, mais c'est parce qu'on n'a pas de potes. Non.
En fait, plus que potes, c'est plus est-ce qu'on a déjà travaillé avec ? Est-ce qu'ils nous connaissent ? Est-ce qu'ils savent comment on bosse ?
Est-ce qu'on est sérieux ?
Bah, typiquement, l'attaché presse de Marine Le Pen, on avait fait 2 ans plus tôt lors des européennes l'interview de Bardella, de Jordan Bardella, donc aujourd'hui vice-président du RN.
À l'époque, il était tête de liste aux européennes.
Ça s'était bien passé. Et du coup, l'attaché de presse, après, c'était plus simple de la contacter pour avoir Marine Le Pen en interview. Parce qu'elle nous connaissait. Ça ne veut pas dire qu'on a passé Noël avec elle et qu'on est amis avec elle, mais d'un point de vue professionnel, on se connaissait.
Maintenant, passons à l'interview elle-même. Vous arrivez face à une personnalité politique, toutes les couleurs politiques aussi, toutes les couleurs des caractères.
Je crois qu'on a eu de tout, quoi. Mmh. On a eu les gens hyper froids, enfin les personnalités politiques glaciales. On a eu ceux qui sont trop sympa, mais c'est limite suspect. Enfin, faut pas oublier que les politiques sont hyper rodés à l'exercice, qu'ils en font des tonnes d'interviews.
Ils nous testent aussi.
Je pense qu'il y a aussi, comme souvent dans ce métier, un rapport à l'âge aussi. Enfin, pas forcément des super vieux d'ailleurs, mais tu sais, ils te regardent un peu genre ah oh là là, elle a l'air jeunette. Enfin, limite, c'est qui cette stagiaire ?
Puis il y a toujours un moment de tension avant le début de l'interview avec Nicolas Sarkozy.
C'était pendant la campagne de la primaire. Voilà,
de la
en
primaire
2016.
En 2016, la primaire à droite. Et on avait fait une interview, entretien d'embauche, où on posait les questions un peu quelles sont vos qualités pour le poste, etc. Et donc on présente le projet à Nicolas Sarkozy. Et là, gros silence, il nous regarde et il nous dit on parle quand même de la France là. Donc là, 30 secondes de malaise, de blanc. Et bon, pas première question. Et on a commencé. Et en fait, c'est une des caractéristiques de Sarkozy et d'autres politiques. C'est de un peu être froid au début pour aussi être sous pression, nous mettre sous pression, nous tester. Et en fait, après, il a répondu aux questions.
Oui, parfois, il y a un petit rapport de force. Et en début d'interview, quand t'as jamais interviewé la personne, tu vois, tout le monde se jauge un peu. Mais c'est toi, Anne Laetitia, qui nous avait donné cette super astuce de la question icebreaker. Donc, en langue française, la question qui brise la glace. Quand tu rentres dans la pièce, vont te présenter et tout, puis poser une question un peu, soit un peu légère ou un peu qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais pour... juste entamer la conversation et pas rentrer directement dans le dur.
C'était quoi avec Valls ?
Le Valls qui était en campagne pour la primaire socialiste. En plus, on sentait qu'il était hyper tendu.
Il avait eu une campagne pas facile.
Rappelez-vous, il avait eu quoi, l'histoire de la claque ou de la farine, je sais plus. Enfin, il rentre dans la pièce, en plus un peu en speed dans ces périodes de campagne. Ils enchaînent les rendez-vous. Donc, tous les trois là, on regardait nos petites fiches de questions. Bon, alors, qui tire en premier ? Et tu lui as lancé une question sur je sais plus quel film, parce qu'il avait raconté à Libé qu'il adorait un film américain avec beaucoup.
Willis, 58 minutes pour vivre.
Mais ça l'avait pas détendu pour autant d'ailleurs.
Non, mais après il y a des gens qui sont indétendables probablement. Et d'autres qu'il faut pas trop lancer sur les anecdotes parce que parfois, typiquement, Benjamin Griveaux lorsqu'il était porte-parole du gouvernement, avant que commence l'interview, pendant plusieurs minutes, il nous a raconté une anecdote sur sa paire de lunettes.
Une tentait de nous mettre dans la poche, un peu ça aussi, de nous enrober dans la rondeur.
Comment on arrive à... On fait d'abord les questions sympas, puis après on pose le jeu.
Les questions les plus méchantes, on décide qu'elles arrivent au milieu d'interview ou en fin d'interview. Si on commence directement avec une question horrible, évidemment, le politique va se tendre et ça va pas être très intéressant.
Interview, alors ça dépend des politiques, mais parfois ils sont un peu comme un diesel. Donc parfois les 2-3 premières réponses, ils sont pas encore bons ou ils sont... Parce que voilà, c'est aussi des gens qui ont des journées de fou où ils font 10 000 milliards de trucs, ils sont stressés et tout. Les questions... Bon, méchantes, on les appelle méchantes, mais en vrai, c'est plutôt les questions qui peuvent les gêner ou les embarrasser qu'on essaie de les mettre au milieu. Le risque, si tu les mets à la toute fin, c'est que souvent, ça peut passer à la trappe, parce qu'en général, il y a toujours ce moment où l'attaché de presse dit « Tic, tic, dernière question !»
Super, t'as interviewé Benoît Hamon.
Tu retournes à la rédac avec ton petit enregistrement, tu mets tes écouteurs, t'écoutes, tu dérushes. Dérusher, c'est retranscrire de l'audio en écrit. Tu
tapes, ouais, on retape tout, on tout, retape toute tout l'interview par écrit.
Nous,
sur,
on, est,
sur
on
un
a
document.
Une méthode assez rigoureuse. Après, je ne sais pas si tout le monde a la même. Et après, on taille dans le gras parce que parfois, il y a soit des digressions, soit des répétitions. Et nous, la contrainte qu'on a avec le format écrit de l'interview, c'est que bien sûr, ça peut être long, mais il ne faut pas non plus que ça fasse 15 pages, surtout si parfois il y a des redites. Donc,
comment tu repères ? Ça, c'est une phrase qu'il faut garder, parce que ça, c'est une phrase qui veut dire quelque chose ou qui annonce quelque chose.
Déjà, il y a la nouveauté. Si le politique dit quelque chose qu'il a dit nulle part ailleurs dans tous les médias, On sait que voilà, c'est important, ça peut être repris aussi par d'autres médias. On fait des choix aussi sur les thématiques, ça dépend de ce qu'on veut garder.
Bon, en général, nous, on garde tout. C'est rarement arrivé qu'on enlève tout un pan d'une interview. Enfin, si on a posé la question, c'est que la réponse nous intéresse. Alors après, parfois, il y a des réponses qui sont hors sujet, donc ouais. T'hésites à les garder parce que du coup, ça rallonge l'interview en n'ajoutant pas beaucoup d'informations. Enfin, on essaye aussi toujours de se dire, bon, bah, quelqu'un qui lit, un lecteur qui lit l'interview, est-ce qu'il va apprendre quelque chose? Est-ce que ce passage, il est vraiment éclairant? Puis après, il y a parfois un petit travail de fact-checking parce que parfois, dans le vif de l'interview, l'interlocuteur te balance un chiffre ou un machin. Et nous, avant de mettre l'interview en ligne, si jamais il y avait un truc qui était faux ou qui était pas tout à fait, ou c'était pas tout à fait le bon chiffre, on va mettre entre crochets pour le lecteur, pour qu'il aille voir aussi, comparer avec d'autres sources, quoi. Mais
dans ce travail, il y a parfois une reformulation plutôt qu'une réécriture des propos.
Ouf. Ouais, mais en fait, en gros, il faut aussi préciser que nous, à 20 minutes, on a une charte qui précise que pour les interviews, on peut envoyer l'interview en relecture à l'interlocuteur, quel qu'il soit d'ailleurs politique ou pour toutes les autres rubriques, c'est écrit dans la charte. Mais en revanche, nous, et d'ailleurs, ça fait partie des règles qu'on fixe avec les attachés de presse et avec les politiques eux-mêmes, parce qu'en général, on leur redit les yeux dans les yeux avant que l'interview commence, pour éviter les soucis. On dit, voilà, ben, on va faire l'interview, ce sera publié dans 20 minutes, on vous l'enverra avant publication, vous pourrez faire éventuellement des retours pour modifier la forme. Ou alors, s'il y a eu un quiproquo énorme, j'en sais rien, sur un chiffre ou un truc qui a été mal entendu, mal retranscrit, pourquoi pas, ça se discute. Mais sinon, c'est tout. On n'enlève rien, on ne coupera rien de ce que vous avez dit et on n'ajoutera pas des trucs que vous n'avez pas prononcés pendant l'interview.
Parfois, ça monte dans les tours, dans les reformulations et les réécritures ou pas?
Bah ouais, c'est...
Et il y a un combat souvent, ça dépend des attachés.
À nouveau, on a eu toutes les palettes, je trouve, de réactions. Parfois, ça se passe super bien, ils t'envoient le truc dans les temps, ils ont modifié trois pétouilles, une virgule, un adjectif, je sais pas, enfin, rien de dramatique, tout va bien. Et il y a des fois où ça vire au drame, quoi. Mais c'est...
Et ça dure plusieurs heures et jusqu'à tard dans la nuit.
Parfois, tu pètes des câbles. En plus, il y en a aussi qui sont fourbes parce qu'ils te renvoient leur version modifiée, mais sans couleur différenciante. Et là, tu te retrouves à avoir deux versions de 4 pages que tu dois comparer mot à mot pour vérifier qu'il n'y a pas eu un ajout ou un truc bizarre. Et oui, parfois, ça monte dans les tours. On a plusieurs anecdotes que Thibaut peut raconter.
Ils veulent ajouter, par exemple, toute une réponse qui n'a jamais été prononcée lors d'interview. Ça s'est passé avec Benoît Hamon, par exemple. Et en plus, c'est pas souvent, c'est des choses qui sont pas forcément importantes, ou en tout cas, on comprend pas toujours ce pourquoi ils veulent ajouter ça, c'est pas fort ou c'est pas nouveau, mais bon, ils y tiennent absolument. Et donc là, comme nous, on a comme Laure l'a rappelé, règle de pas ajouter des choses qui ont pas été dites lors de l'interview, ben, on refuse. Et donc là, ça passe par des appels, des engueulades, parfois ils essayent d'imposer.
Oui, il faut un peu la pression parce que c'est normal aussi. Nous, on est entre guillemets juste journalistes. Enfin, dans l'organigramme de la rédaction, on est un peu en bas de l'échelle. Et oui, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des attachés de presse qui me disent bon, bah, passez-moi votre rédac chef. Pas de souci. Enfin, et dans ce cas-là, ça se gère à un niveau
un peu plus haut.
Et en général, ça équilibre aussi le rapport de force. À 20 minutes, vu que je suis la politique, on n'a jamais cédé sur un truc. Je tiens à préciser que c'est pas propre à une famille politique
ou une autre. Ça arrive à droite.
Ça nous est arrivé avec des interlocuteurs de tous les partis. Et ça arrive. Et après, sur le coup, parfois, tu te dis oh là là, c'était tendu et tout. Puis au final, tu te rends compte que deux semaines après, le politique en question a complètement oublié parce que tu le croises à un truc et qu'en fait, tout va bien, quoi.
Et en fait, ça passe. Et puis l'interview est publiée. Parfois même, ils la reprennent sur leur site, enfin, sur leur compte Twitter. Donc, voilà, c'est un peu incompréhensible.
Ça fait partie
parfois.
Du rapport ça de force, peut-être aussi, ouais. Je sais pas. Et pour les relectures, là où parfois ça peut être interminable, c'est que. Maintenant, quand on interviewe un membre du gouvernement, ministre ou secrétaire d'État, c'est relu par son attaché de presse, son cabinet, et c'est aussi relu par Matignon. Donc il faut prévoir des délais assez longs, parce qu'au début, on s'est parfois fait avoir sur des délais de relecture qui étaient hyper longs, quoi. Mais tu sens que Matignon veille et qu'ils veulent quand même surveiller ce qui se dit.
On va finir peut-être sur la suite des interviews politiques.
L'objectif principal, ça reste que l'interview soit lue par les lecteurs, quoi. Notre job, c'est quand même d'informer les lecteurs, donc c'est le principal. Après, d'un point de vue personnel, on est content, et pour la boîte, c'est important aussi que l'interview soit reprise dans d'autres médias.
Bah, ça veut dire que dedans, il y avait matière à réagir, qu'il y a eu une déclaration qui a fait débat ou qui a entraîné un autre débat. Enfin, tout le défi de l'interview politique, c'est que comme c'est des gens qui parlent en général quand même tout le temps et partout, je trouve que t'es aussi content quand t'as fait une interview politique où tu te dis, bon, ben là, ils ont dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dit de cette façon-là, si ça avait été sur leur propre compte Twitter ou si ça avait été même dans un autre média, on a réussi voilà, à leur faire dire quelque chose, à leur faire aboutir une réflexion ou à leur faire prendre une position qui est intéressante.
Merci à Laure Cometti et Thibault Legal, journalistes au service politique de 20 minutes, pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleue, c'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et comme ça vous aurez les notifications des nouveaux épisodes. Et vous pouvez aussi et surtout nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.